Il est 10h et vous êtes bien calé sur le 88.8. Il est temps de retrouver la conférence proposée par l'IRD, Institut de Recherche pour le Développement, à l'Alcazar samedi 22. C'était Frédéric Médaille qui intervenait autour des trésors de biodiversité des petites îles de Méditerranée. Frédéric Médaille est professeur à l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie Marine et Continentale, l'IMBE, ex-Marseille Université. On l'écoute.
Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Donc je vais essayer de vous parler de petites îles de Méditerranée. Donc peut-être une vision un petit peu différente de celle à laquelle vous êtes habitués. Je ne vais pas parler vraiment de grandes îles, mais de pas mal de projets, de programmes que l'on a sur ces petits bouts de cailloux. Vous voyez parfois, c'est pas grand-chose. Vous reconnaissez peut-être le château de Brégançon sur la côte varoise. Et voilà, c'est ce petit morceau de rocher. Alors parfois c'est plus grand quand même, bien entendu. Mais même ces bouts de cailloux peuvent être intéressants en termes de biodiversité. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer tout au long de cet exposé. Un petit rappel quand même pour vous indiquer ce que l'on entend par biodiversité et comment cette biodiversité s'est mise en place dans le temps. De façon très brève, on peut voir qu'effectivement vous avez une histoire évolutive qui peut s'inscrire selon des échelles temporelles de plusieurs millions d'années et qui vont jouer un rôle dans la biodiversité actuelle. Et c'est ça qui est intéressant, et grâce aux techniques modernes, on peut de plus en plus prendre en compte cette histoire évolutive, des processus qui s'inscrivent dans de vastes échelles de temps et d'espace. On parle de processus macroécologiques. Et tout ceci, donc toute cette enveloppe importante, joue un rôle dans le nombre d'espèces d'une région donnée. Et je vais passer après relativement rapidement, mais les aspects de dispersion, les aspects environnementaux, ce qui est un peu plus connu, c'est-à-dire le type de sol, le climat, les ressources, les perturbations, jouent un rôle pour expliquer la biodiversité locale d'un écosystème donné. Sans oublier, bien sûr, et on est en Méditerranée, c'est vraiment un aspect important, l'impact de l'homme depuis des millénaires, depuis des dizaines de milliers d'années, qui également brouille les cartes de la biogéographie et de la compréhension du monde vivant, mais qui également enrichit ces milieux parfois. Alors pourquoi s'intéresser à la région méditerranéenne? Parce que cette région est très intéressante et elle se place à une échelle mondiale parmi ce que l'on appelle des points chauds de biodiversité. Des points chauds de biodiversité, ce sont des régions qui ont une concentration exceptionnelle en espèces, végétales ou animales, et notamment en espèces qui sont particulières à cette région donnée. Ces espèces, on les appelle des espèces endémiques. Et donc, parmi les 34 points chauds de biodiversité au niveau mondial, notre bassin méditerranéen abrite donc une concentration très forte en espèces. Regardez au niveau des espèces végétales, on a à peu près 10% de la richesse de la biodiversité végétale mondiale sur moins de 2% des terres émergées. Donc c'est quelque chose d'important et qui justifie pleinement de s'intéresser à ce territoire. Les îles sont un territoire fécond pour des théories. Alors je ne vais pas vraiment développer ça, hein, ce n'est pas l'objet de cet exposé, mais il faut bien quand même se rendre compte que les systèmes insulaires sont parmi les territoires les plus intéressants en écologie, en biogéographie, pour tester de nouvelles théories. Et la fameuse théorie de biogéographie insulaire dont on a fêté les 40 ans en 2007 aux États-Unis est là pour le montrer. Là, vous avez cette personne-là, vous en avez peut-être entendu parler, c'est Edgar O. Wilson, un des principaux développeurs du terme biodiversité au monde. Et il montrait les petites îles. Vous voyez que c'est extrêmement petit, c'est encore plus petit que les îles que je vous ai montrées tout à l'heure. Ce sont des morceaux de mangroves au large des côtes de Floride. Et c'est sur ces petits territoires qu'ils ont fait leur fameuse expérience de défaunation, et ils ont essayé de voir de quelle façon les espèces d'insectes recolonisaient ces petits morceaux de mangroves. Et donc ils ont mis en évidence que la taille de l'île et son éloignement jouaient un rôle prépondérant, et ça a été le ciment de cette théorie de biogéographie insulaire qui est toujours utilisée, toujours d'actualité, même si maintenant d'autres théories, comme la théorie des métapopulations et d'autres théories, se sont développées et ont été mises en évidence par des chercheurs de façon un peu plus récente. Alors, pourquoi les îles sont intéressantes ? Pour tout un ensemble de raisons. Bon, évidemment, c'est un écosystème beaucoup plus simplifié. Alors, c'est vrai qu'on peut y faire rapidement le tour, mais c'est quelque chose de plutôt positif, parce que la grande difficulté dans nos disciplines du monde vivant, c'est d'essayer de trouver des lois et surtout de comprendre la complexité du monde vivant. On verra la diversité des interactions, la diversité des espèces, et tout ceci rend très complexe la compréhension de la biodiversité et de sa dynamique. Et donc, travailler sur les systèmes insulaires, c'est essayer de mieux connaître, de mieux comprendre ces fonctionnements, de comprendre également les processus évolutifs, les processus de fonctionnement de ces écosystèmes. C'est également des territoires privilégiés pour examiner les conséquences des changements globaux. Et c'est également, on le verra, un territoire important dans le cadre de la conservation de la biodiversité, notamment au niveau du littoral. Donc, en résumé, hein, vraiment ces systèmes insulaires, ce sont des territoires vraiment simplifiés pour mieux comprendre la biodiversité et après extrapoler ces résultats à d'autres systèmes un peu plus complexes. Le bassin méditerranéen, c'est une zone très importante en termes d'îles. C'est un très grand archipel qui reste assez méconnu. Et on ne connaît pas exactement le nombre d'îles et d'îlots. Hein. C'est quelque chose de très compliqué. On estime entre 15 000 et 20 000 îles et îlots, donc à peu près 240 sont habités au niveau méditerranéen. Et à peu près, au niveau du bassin méditerranéen occidental, à peu près 1 500 îles. Qui serait présente, même si, encore une fois, le dénombrement n'est pas encore réalisé. Il va être fait, je vais vous en parler dans un instant. Les îles, c'est quelque chose en Méditerranée de très variable, depuis l'île la plus vaste qui est la Sicile, avec 25 700 km² et une altitude de plus de 3300 mètres au niveau du mont Etna. Mais voilà donc les plus grandes îles méditerranéennes que vous connaissez, Corse, Sardaigne, îles Baléares, Crète, Chypre. Ce sont des îles qui commencent à être maintenant de mieux en mieux connues en termes de biodiversité, en termes de fonctionnement, même si beaucoup de recherches, bien sûr, restent à entreprendre. Mais nous, nous nous sommes intéressés depuis des années, et dans le cadre d'une approche dont je vais reparler à la fin, qui est l'approche petite île de Méditerranée, on s'est intéressé à des îles bien plus petites, c'est-à-dire des îles dont la taille est en général inférieure à 1000 hectares, et dont la distance est relativement faible, mais au moins un minimum 5 mètres de la côte. Et ces îles, dans le sens de la définition petite île de Méditerranée, donc définition PIM, je vais souvent parler de cet acronyme PIM, ce sont des îles qui abritent au moins une plante vasculaire. Donc la diversité de ces îles méditerranéennes est assez extraordinaire. Depuis des petites îles, des petits bancs de sable, de même pas 50 cm de hauteur, par exemple, autour de l'île de Djerba, jusqu'à des îlots au niveau des Baléares à Ibiza, des îlots de Sardaigne en Tunisie, l'île de Santorin. Donc une extrême diversité de situations, de formes, d'éloignement, d'histoire. Et c'est ça qui est très intéressant également, c'est toute cette diversité, la prendre en compte et voir et la corréler par rapport à la biodiversité qui est présente sur ces îles. On peut distinguer deux grands types d'îles, des îles d'origine continentale, c'est-à-dire des îles qui, à un moment donné de leur histoire, ont été reliées au continent. Ce sont les variations du niveau marin qui les ont séparées de la terre et qui font qu'actuellement ce sont des îles, mais il y a parfois ne serait-ce que quelques milliers d'années, comme les îles de Marseille, vous reconnaissez sans doute l'île Meyre sur la côte des Calanques, ont été connectées au continent il y a encore quelques milliers d'années, et donc ça explique que les peuplements insulaires ne sont pas aussi originaux peut-être que ce que l'on peut rencontrer au niveau d'autres types d'îles, Hawaï et autres. Mais ces îles d'origine continentale, malgré tout, montrent des particularités, ce qu'on en appelle des syndromes, un syndrome d'insularité. Donc la grande majorité de ces îles méditerranéennes sont des îles d'origine continentale. Il y a relativement peu d'îles d'origine océanique, essentiellement des îles volcaniques. Il y a très peu d'îles volcaniques en Méditerranée. Une des plus fameuses, c'est au niveau de l'archipel de Santorin, avec cette fameuse éruption 1600 ans avant notre ère, qui a conduit à cette fameuse caldeira au niveau de l'île Santorin même. Et puis, il y a des îles un petit peu anecdotiques et fantastiques. Ce livre est assez savoureux parce qu'il retrace un peu la destinée d'une île qui est présente au large des côtes de Sicile et de Malte et qui est apparue et a disparu au fil du temps, au fil des changements des activités tectoniques. Et donc cette île a été à tour revendiquée par les Français qui l'ont baptisée île Julia, par les Italiens qui l'ont appelée île Fernandina Andrea et par les Britanniques qui l'ont appelée île Graham. Donc elle est apparue plusieurs fois et en 2003 elle était à moins 5 mètres de profondeur. Actuellement je ne sais pas où elle est exactement, mais bon, ça fait partie des petites situations anecdotiques, parce que c'est vrai que les îles volcaniques sont relativement peu nombreuses en Méditerranée. Alors en Provence, on y reviendra tout à l'heure, on a un archipel qui est loin d'être négligeable puisqu'on a une centaine d'îles et d'îlots. Depuis la côte bleue, qui n'est pas figurée à ce niveau-là, jusqu'aux îles de l'Airain, c'est une petite île un peu plus à l'est. Donc une centaine d'îles, la plus grande étant l'île de Porquerolles avec 1260 hectares, et certaines îles sont très très petites, moins de 1000 mètres carrés, mais sont tout autant intéressantes. Donc vous avez une diversité de quelques situations au niveau des archipels marseillais, au niveau de l'île de Bago, dans le parc national de Porquerolles, et au niveau de Saint-Honorat, au niveau des Lérins. Donc voilà un petit peu ce panorama d'une grande diversité des îles méditerranéennes qui mérite d'être mieux connues, d'être mieux explorées. Donc pourquoi ? Parce que ces îles sont véritablement des témoins biogéographiques et évolutifs de l'histoire de la mise en place de la biodiversité en région méditerranéenne. Et cette région méditerranéenne, encore une fois, est une zone vraiment intéressante et importante sur le plan de son histoire biogéographique, sur le plan de son unicité de peuplement. Vous avez donc ces fameuses espèces endémiques, donc qui sont localisées, qui sont propres à un territoire donné. Donc sur cette carte concernant les espèces végétales endémiques, vous avez les principales zones d'endémisme et vous voyez que parmi les grandes îles de Méditerranée, notamment Corse, Crète et Chypre, vous avez des taux d'endémisme, c'est-à-dire des espèces végétales particulières, spécifiques à ces îles, qui sont particulièrement importantes et élevées, puisque le taux d'endémisme peut dépasser les 20%, donc 20% d'espèces propres à ces systèmes insulaires particuliers. Et donc cette histoire évolutive et biogéographique, elle est proprement fascinante. Si on prend cette petite plante qui est proche des pieds d'alouette, qui est de la famille des ranunculacées, c'est une dauphinelle, vous voyez sa distribution mondiale sur les îles d'Hyères, au niveau de la Corse, du sud de la Sardaigne et au niveau de Majorque sur les Baléares. Donc ce groupe Delphinium pictum ou Delphinium reichieni, c'est très très proche sur le plan morphologique et génétique. Ce groupe, maintenant, vous le voyez actuellement, a une distribution très fragmentée. Et pourtant, cette distribution, elle est le fruit d'une histoire très très ancienne qui date d'à peu près 30 millions d'années à l'Oligocène, quand cette zone était reliée, quand on avait un continent, un microcontinent qu'on appelait le microcontinent proto-ligure, qui reliait ces territoires. Il y a eu séparation de ces microplaques, dérive de la plaque corso-sarde, à peu près, qui s'est mise en place il y a 20 millions d'années. Et ces espèces, que ce soit une espèce végétale comme cette dauphinelle ou la prochaine, ces espèces ont dérivé avec les blocs qui s'étaient séparés. Et donc, actuellement, on a ce type de distribution qui est le fruit, vous le voyez, d'une mise en place très très ancienne de plusieurs dizaines de millions d'années. Et petit à petit, on arrive à retracer de façon plus précise ces phénomènes grâce aux études génétiques. Un autre exemple concernant cette fois-ci un batracien, c'est le Discoglos sarde, qui a une distribution Corse, Sardaigne, île de l'archipel toscan et une population sur l'île de Porquerolles au niveau de la côte varoise. Donc là aussi, comme précédemment, c'est le même type de distribution qui s'explique donc par une mise en place du temps du continent proto-ligure il y a 20 à 30 millions d'années. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant, et conserver ce type de patrimoine, c'est quelque chose d'important, bien entendu, pour la biodiversité méditerranéenne. Alors, les petites îles en tant que telles ont fait l'objet de moins d'études pour le moment sur le plan des processus évolutifs, et pourtant, avec une phrase fameuse de chercheurs américains qui ont indiqué que chaque population insulaire constitue une unité évolutive soumise à des variations environnementales survenant de manière indépendante, on peut s'attendre à avoir des phénomènes de variation morphologique, génétique, sur ces petits territoires insulaires. Et c'est ce qui a été fait, au moins au niveau morphologique, dans ce groupe de plantes que l'on appelle des centaurées. Vous voyez la variabilité qu'il peut y avoir, y compris de couleur de fleurs, dans un groupe de centaurées qui est plutôt présent en Méditerranée centrale, sur les petites îles satellites de la côte italienne, de Sicile, voire même de Tunisie. Et donc, ceci est intéressant à prendre en compte pour essayer de mieux estimer les capacités d'adaptation, d'évolution de petites populations isolées, végétales ou animales. Et ça, c'est important, parce que vous le savez sans doute, de plus en plus, on a des systèmes naturels, entre guillemets, qui sont de plus en plus fragmentés du fait de l'urbanisation, du fait de l'action de l'homme. Et cette fragmentation peut induire des phénomènes d'extinction de populations. Et ça, c'est aussi un phénomène dont on parle relativement peu et qui est pourtant très très important pour la biodiversité méditerranéenne. Travailler sur les petites îles, c'est essayer de mieux comprendre comment les populations en situation d'isolement extrême arrivent à se maintenir, arrivent à persister et arrivent à se développer et à créer de nouvelles espèces. Donc c'est le processus de spéciation. Et vous avez tout un ensemble de situations qui sont particulières. Cette petite plante qui est une épierre, l'épierre à rameaux courts, vous voyez sa distribution mondiale qui est presque exclusivement présente sur des petites îles ou sur des péninsules. Là, on ne le voit pas bien, mais c'est chaque fois au niveau de péninsules côtières et également au niveau de ces îles méditerranéennes, avec deux populations présentes au niveau des archipels marseillais, sur l'île de Riou et sur l'île du Grand Congloué. Donc là aussi, c'est une distribution qui est assez intéressante, qui pour le moment n'a pas fait l'objet d'études approfondies, et on aimerait bien mieux comprendre pourquoi une telle espèce est distribuée de cette façon. Et c'est vrai que ce n'est pas la seule de ce contingent, présente depuis les côtes du Maghreb, sud de l'Espagne, Baléares, et qui arrive en limite nord d'aire de distribution sur les archipels marseillais. Ce genre d'espèce mériterait une étude génétique, phylogéographique, j'y reviendrai un petit peu dans le cours de l'exposé. Vous avez d'autres espèces qui sont, elles, vraiment typiquement à distribution micro-insulaire. Et c'est le cas de cette toute petite composée qui n'est pas plus haute que quelques centimètres, et elle porte très bien son nom, hein, c'est la nanantée toute petite, qui est une petite composée, donc qui est une espèce endémique de Corse et de Sardaigne. Donc c'est une espèce qui est strictement présente sur les îlots satellites de la Corse et de la Sardaigne, et qui n'est pas du tout présente sur les grandes îles de Corse et de Sardaigne. Donc ces distributions micro-insulaires, ces spécialistes micro-insulaires sont également intéressants à mieux étudier. Pourquoi ils sont présents sur les petites îles et pas sur les grandes? Sans doute parce qu'il y a des processus biologiques différents, des phénomènes de compétition, d'interaction entre espèces qui sont différents sur ces toutes petites îles par rapport aux plus grandes. Et donc là aussi, ce sont des modèles d'études particulièrement intéressants. Il y a beaucoup de recherches qui méritent d'être conduites sur ces taxons modèles. Chez les invertébrés, vous avez également des espèces qui présentent des phénomènes de surabondance. Une espèce comme celle-ci, un Bioplanes meridionalis, qui est une espèce localisée à la Provence et qui est très très rare sur le continent, elle arrive à être surabondante. Vous avez sur cet histogramme le nombre d'individus, près de 200 individus qui ont été collecté par mon collègue Philippe Ponnel sur un petit îlot, l'îlot de la Gabinière, qui est un petit îlot au sud de l'île de Porquerolles, dans le Var. Donc vous avez, encore une fois, du fait de ces interactions biotiques particulières et du fait de la simplification du nombre d'espèces, vous avez parfois une surabondance, une pullulation, on pourrait dire, de certains taxons, de certaines espèces qui sont particulièrement rares par ailleurs. Et c'est ça également l'intérêt, le paradoxe de ces petits systèmes insulaires. Globalement, vous pouvez avoir une pauvreté relative, mais certaines espèces, très rares par ailleurs, vont brusquement être abondantes localement. Un autre aspect intéressant, ce sont les interactions biotiques qui se nouent entre les espèces. Et là, on rentre dans le champ de l'écologie fonctionnelle. Et comme je le disais tout à l'heure, mieux comprendre ces interactions biotiques, c'est mieux comprendre la façon dont les espèces vont pouvoir se maintenir quand des phénomènes de fragmentation et d'isolement des systèmes naturels continentaux surviennent. Donc, effectivement, on peut se poser la question, hein, je ne vais pas tout détailler, comment une espèce, comme une luzerne, qui est pollinisée par des abeilles, va être pollinisée sur une petite île alors que les abeilles sont absentes de cette île. Et vous avez après d'autres syndromes. Mes collègues herpétologues ont mis en évidence récemment, par exemple, que sur des petites îles du sud de la Méditerranée, vous aviez un commensalisme, donc deux espèces qui se nourrissent des mêmes proies, un commensalisme qui était complètement méconnu entre un lézard et un oiseau, le faucon d'Éléonore. Le faucon d'Éléonore est parmi les rapaces emblématiques de la Méditerranée, et ce faucon d'Éléonore abandonne de temps en temps certaines proies. Et, chose curieuse, les lézards, qui font face souvent à des ressources très limitées sur ces petits îlots qui sont parfois que des bouts de rochers sans quasiment de végétation, eh bien les lézards ont occupé une niche alimentaire complètement nouvelle, et ils se nourrissent en partie des cadavres laissés par le faucon d'Éléonore. Donc ces interactions étaient complètement méconnues jusqu'à la publication de cet article en 2012, et ça a été une grosse surprise pour les herpétologues méditerranéens. Vous avez également, en situation d'insularité, on va y revenir, ces populations de lézards qui arrivent à avoir des phénomènes, des comportements assez particuliers de pollinisation d'espèces. Là, c'est un lézard qui pollinise une fleur de carotte. Je voulais insister sur un petit cas assez fameux et assez intéressant qui a fait l'objet de pas mal d'études et qui concerne un arôme, c'est l'arôme mange-mouche. L'arôme mange-mouche, c'est une espèce qui est distribuée sur les Baléares orientales, en Corse et en Sardaigne. Cet arôme mange-mouche, il a un lien avec les mouches et il a un lien également avec les lézards méditerranéens. Alors, premièrement, il y a des études qui ont été faites. Les premiers explorateurs ont essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Et ils l'ont appelé arôme mange-mouche parce qu'ils voyaient des mouches mortes au sein de l'intérieur de la plante. En fait, ce n'est pas du tout une plante carnivore comme les premiers botanistes de la fin du 19e siècle l'ont indiqué. C'est simplement une plante qui va attirer les insectes, et en l'occurrence particulièrement des mouches nécrophages. Ces mouches nécrophages sont attirées par l'aspect, qui ressemble un petit peu de la viande, un petit peu à une charogne, par une odeur qui, effectivement, là, c'est complètement une odeur de cadavre en putréfaction. Et également, cette espèce dégage de la chaleur. Et ce sont des études récentes qui ont mis en évidence ceci. C'est une espèce qui fait partie des rares espèces qui arrivent à dégager de la chaleur, parfois du simple au double par rapport à la température ambiante. Des expériences ont montré en Corse que si la température ambiante était de 15 degrés, au niveau de l'appareil floral de l'arôme, vous aviez de l'ordre de 30 degrés. Et donc, l'aspect, l'odeur et la chaleur attirent ces mouches nécrophages qui vont jouer le rôle de pollinisateur de l'espèce. Mais ces mouches nécrophages attirent également les lézards, lézards des Baléares, lézards de Corse, qui se fixent et qui attendent les mouches. Et le lézard va également polliniser les fleurs de cet arôme. Dernière interaction assez intéressante, c'est que ces lézards vont manger les fruits, les baies charnues, et vont jouer le rôle de disperseur de ces graines. Et chose intéressante également, une fois que ces graines sont ingérées par les lézards, ces graines vont avoir des capacités de germination beaucoup plus importantes que si elles germaient simplement et qu'elles tombaient au sol. Donc vous voyez les interactions très très importantes qui peuvent se mettre en place entre une plante, des mouches, des lézards, sur des systèmes encore très particuliers où les ressources sont limitées, peu nombreuses, et effectivement il faut faire face à des environnements extrêmes. Et donc il y a tout cet ensemble d'interactions biotiques qui se sont développées. Donc c'est également ça qui est intéressant d'étudier sur ces petites îles de Méditerranée. Donc tout ce dont je viens de parler peut se retrouver dans un grand chapeau que Jacques Blondel avait défini comme le syndrome d'insularité. Et donc dans la définition de Jacques Blondel, il qualifie ce syndrome d'insularité comme l'ensemble des modifications à la fois morphologiques, écologiques, sur le plan du comportement, donc éthologiques et également génétiques, que vont présenter toutes ces espèces en situation d'isolement géographique, en situation de confinement. Donc essentiellement sur les petites îles, sur des îles plus grandes, mais également dans des systèmes plus ou moins insulaires. Une montagne entourée de plaines, comme le Mont Ventoux peut, dans une certaine mesure, être considéré comme une île biogéographique. Et donc vous avez des syndromes d'insularité qui peuvent se manifester, bien moins importants bien sûr que sur une île vraie. Et donc vous avez, au fil du temps, là j'ai pas l'occasion de développer l'aspect paléo-environnemental, paléo-écologique de ces îles de Méditerranée, mais c'est également fabuleux. Vous savez peut-être qu'il y a quelques dizaines, centaines de milliers d'années, ou tout au plus au début du Pléistocène, il y a à peu près 2 millions d'années, vous aviez une méga nanofaune qui peuplait certaines de ces îles de Méditerranée, notamment la Crète, Malte, Sicile et la Sardaigne, et vous aviez des éléphants nains, des hippopotames nains, ou au contraire des lapins rats géants qui peuplaient ces îles. Le lapin rat géant de Corse, le Prolagus, Prolagus sardus, était consommé par les premiers hommes mésolithiques il y a encore quelques dizaines de milliers d'années. Il y a à peu près au niveau du Monteleone vers Bonifacio, vous avez des consommations de millions d'individus de Prolagus par les populations mésolithiques du sud de la Corse. Donc cette méga nanofaune a complètement disparu, sans doute en partie du fait de l'action humaine et sans doute en partie du fait des changements environnementaux. Et entre parenthèses, le mythe du cyclope vient probablement de ces restes d'éléphants nains qui étaient très particuliers au niveau de la boîte crânienne, et les populations ont pensé que c'était le cyclope qui était présent au niveau des cavernes dans lesquelles il découvrait ces restes. Maintenant, venons-en aux menaces qui pèsent sur la biodiversité des petites îles de Méditerranée. Malheureusement, nous sommes en Méditerranée, les menaces sont fortes et importantes, bien entendu, de façon globale. Vous avez des maintes et maintes cartes. J'ai choisi de montrer celle-ci qui est issue des données synthétiques du plan bleu, avec des changements de population qui sont très importants, des projections démographiques en 2030 qui sont également très fortes, entre population résidente, population de touristes, et donc une artificialisation très forte, malheureusement, du milieu, et l'artificialisation des côtes méditerranéennes est un phénomène qui se développe de plus en plus, y compris maintenant au sud. Vous le voyez, vous avez des mégalopoles qui se développent de façon très très importante, et des zones qui étaient encore relativement épargnées jusque dans les années 1970 ont complètement évolué, ont complètement été modifiées par les actions humaines. Mais cette action humaine, elle est très ancienne. Elle date d'au moins 10 000 ans. Ce que j'ai voulu vous montrer sur ces cartes qui synthétisent l'occupation humaine sur les îles d'hier depuis la préhistoire jusqu'à l'époque gallo-romaine, vous voyez que sur les îles de Porquerolles, Porquerolles, le Levant, vous aviez déjà des sites, et non négligeables, hein, depuis la préhistoire, et bien sûr encore plus au niveau gallo-romain. Et donc, comme l'indiquait Jean-Pierre Brun, on doit imaginer une nature libre, des côtes fréquentées plus ou moins par des pêcheurs, des marins qui les abordent pour faire égade, comme on dit dans la région, ou alors un environnement qui a été plus ou moins fortement modifié par l'homme. Donc cet impact de l'homme a été très très important sur les systèmes micro-insulaires, et il y a une partie de nos recherches au niveau de l'Institut qui vise à reconstituer les environnements du passé, ce que l'on appelle les paléo-environnements, grâce à des restes fossiles de pollen, de charbon de bois, d'ostracodes, d'escargots et autres. Plus récemment, au niveau de ces îles d'hier, vous voyez les changements environnementaux qui ont pu survenir. Alors, au XIXe siècle, vous aviez des îles qui étaient très, très peu fournies en arbres, puisque vous avez eu des impacts très forts au niveau des activités militaires. Vous avez eu des usines de soude, comme sur l'île des Ambiers également. Les îles sont également des territoires de marginalité, il faut bien le voir sur le plan sociologique, et tout ce que l'on ne voulait pas, eh bien on le mettait sur les îles. Donc c'est pas un hasard si on a les lazarets au niveau des îles de Marseille, si on a beaucoup d'îles qui sont des îles prison, etc., etc. Donc la marginalité sociologique, elle est également présente, et il y a une marginalité écologique également qui est à souligner. Et donc sur ces îles d'hier, vous avez des usines de soude qui ont consommé des quantités astronomiques de bois et qui ont conduit à une ouverture très très forte du milieu. Ce milieu qui petit à petit, avec la baisse des usages anthropiques, a pu se reconstituer, et actuellement, avec la création du parc national de Port-Cros dans les années 1960, on a fêté l'an dernier les 50 ans du parc national de Port-Cros, on a une reconstitution du tapis végétal de certaines forêts. Maintenant, est-ce que c'est une forêt qui est identique à la forêt qui était présente avant les actions de l'homme? Là, pour le moment, on n'a pas les éléments nécessaires pour trancher. On peut penser que certaines espèces clés de l'écosystème ont pu disparaître du fait de l'action humaine. Mais là, les études paléoécologiques ne nous renseignent pas encore de façon assez précise. Et vous avez des îles qui ont fait l'objet de pratiques d'anthropisation assez extrêmes. On est en train de travailler actuellement sur cette île qui est l'île Cavallo, dont vous avez déjà entendu sans doute parler. Hein, c'est l'île des milliardaires au sud de la Corse, au niveau de l'archipel des Lavezzi, donc dans la région de Bonifacio. On a eu récemment... Avec nos étudiants, l'accès pour faire les premiers inventaires de biodiversité terrestre sur cette île, qui est l'île satellite la plus grande de Corse. Elle fait 120 hectares et elle n'avait jamais été prospectée dans le détail. Et donc là, on est en train de faire des prospections. On y retourne dans 3 semaines pour compléter les inventaires. Et cette île a eu une destinée assez sévère avec les actions humaines qui se sont déroulées depuis l'achat par un propriétaire privé à la fin des années 60 et le développement, là vous ne le voyez pas très bien sur la carte, mais de tout un ensemble de petits lotissements qui parsèment l'île, de villas de milliardaires et qui donc sont plus ou moins occupés ou abandonnés. Il y a toute une urbanisation complètement délirante sur cette île et qui fait que, en termes de restauration des milieux, beaucoup de choses sont à faire. Et vous avez ceci là qui vous zèbre l'île, et je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte que c'est en fait une piste d'aviation qui avait été construite pour des avions privés et qui a complètement fait disparaître des zones humides qui étaient présentes au centre de l'île. Et cette piste d'aviation a été utilisée que quelques années. Et donc là, effectivement, vous avez un impact important sur la biodiversité. Heureusement, vous avez tout un ensemble d'espèces qui arrivent à se maintenir, dont notre fameuse arôme mange-mouche, qui est présent dans certains secteurs de Cavallo et qui mérite maintenant d'être préservée, même si les habitants voulaient l'enlever parce que ça sent tellement le cadavre qu'ils ont voulu vraiment éradiquer cette pauvre espèce. Donc beaucoup de choses sont à faire sur cette île Cavallo et on est en train de développer des recherches avec des espèces qui n'étaient pas du tout connues pour la France, pour la Corse, d'espèces de lichens, d'espèces d'araignées et la biodiversité de l'île est quand même assez remarquable. Pour en revenir au niveau des îles de Provence, vous avez des îles qui globalement sont relativement bien préservées, puisque vous avez, dans la synthèse qui a été conduite l'an dernier au niveau de l'IMBE, vous avez sur les 85 îles et îlots de Provence et Côte d'Azur, vous en avez 42% qui sont des îles entièrement publiques. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt rassurant en termes de gestion de l'espace. Et vous avez également des îles qui font partie du domaine public maritime. Donc en gros, 86% de ces îles sont dans le domaine de l'État. Donc ça permet une gestion, une conservation relativement pertinente. Et vous avez simplement 1% d'îles qui sont surtout des îles privées. Une autre menace concernant ces petites îles, ce sont les invasions biologiques. Vous en avez sans doute entendu parler. On dit souvent que c'est la seconde cause d'extinction de la biodiversité. Il faut un peu moduler et modérer ce propos. Tout dépend de la région considérée. Tout dépend du système écologique que l'on prend en compte. Mais c'est vrai qu'en Méditerranée, qui est globalement relativement résistante aux invasions biologiques, les îles et petites îles sont plus fragiles que les zones continentales aux invasions biologiques. Invasions biologiques, par exemple, avec cette plante que vous connaissez peut-être, la griffe de sorcière, les Carpobrotus, qui forment des tapis très denses dans lesquels les espèces ont beaucoup, beaucoup de mal. Là, vous avez une orobanche, orobanche sanguinea, qui arrive malgré tout à se maintenir, mais en général, vous avez un tapis monospécifique de cette espèce envahissante qui est originaire d'Afrique du Sud et qui est arrivée de façon qui a été amenée par l'homme à la fin du 19e siècle. Et vous le voyez sur la carte de végétation de l'île du Grand Rouveau, au niveau de Sifour-les-Plages, dans le Var, tout ce qui est en rose correspond à des zones couvertes par les griffes de sorcières. Actuellement, avec la mairie de Sifour, avec l'initiative PIM, il y a des opérations de restauration écologique qui sont engagées, de la même façon que sur l'île de Bago, qui est réserve intégrale du parc national de Port-Cros, et qui est soumise également, notamment dans la partie méridionale, à des phénomènes d'invasion par ces griffes de sorcières, et également par le rat noir. Le rat noir est également une espèce qui a été amenée par l'homme il y a 2000 ans et qui a colonisé beaucoup, beaucoup d'îles et d'îlots de Méditerranée. L'objectif de ce travail qui s'inscrit en partenariat avec le parc national de Port-Cros et donc notre institut l'IMBE est de proposer un protocole scientifique de restauration écologique de cette île en essayant d'enlever les Carpobrotus, d'enlever les rats noirs qui menacent des populations d'oiseaux, notamment des populations de puffins. Et ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que pour mieux contrôler les dynamiques des écosystèmes, on a fait, dans les années 2010-2012, un état initial le plus complet possible de la faune et de la flore. Puis après, des éradications d'espèces, donc végétales et animales, ont été réalisées. Et actuellement, maintenant, on est dans des phases de suivi de ces opérations d'éradication. Alors effectivement, au début, ce n'est pas très joli. On se retrouve avec du sol quasiment mis à nu. Il faut faire très attention au phénomène d'érosion. Il faut accompagner ceci souvent de plantation par des espèces végétales indigènes. Donc ça ne se fait pas au hasard, ça ne se fait pas n'importe comment. Mais l'objectif n'est pas de dire de bouter toutes les espèces végétales ou animales étrangères en disant sus aux aliens, mais d'essayer de garantir une certaine biodiversité locale et de ne pas avoir des paysages qui soient complètement homogènes et présents avec les griffes de sorcières d'une île à l'autre, que ce soit au sud ou au nord de la Méditerranée. J'en reviens aux interactions biotiques et aux conséquences fonctionnelles qu'il peut y avoir quand vous avez des espèces animales introduites qui vont modifier les interactions dont je parlais un petit peu tout à l'heure. Alors là, c'est une autre interaction, mais c'est à peu près la même chose. C'est entre un lézard des Baléares et cette plante, une petite plante qui produit des baies charnues, vous le voyez, qui sont encore une fois dispersées par le lézard. Et le lézard augmente également les capacités de dissémination, le recrutement de l'espèce quand il est présent. Le problème, c'est que sur l'île de Minorque, ce lézard est de moins en moins fréquent parce qu'il a souffert de l'introduction par des mammifères, par l'homme. Et donc, le lézard, dans une région donnée, il ne persiste que sur ce petit îlot, l'îlot des colonnes, où la plante et le lézard cohabitent encore. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est juste au niveau de ce ce petit îlot, que se produit de façon normale la meilleure dynamique de recrutement de la plante, parce que le lézard est encore présent, et donc il peut assurer l'interaction biotique nécessaire et suffisante au maintien de l'espèce. Partout ailleurs, l'interaction biotique a été coupée du fait de ces mammifères introduits par l'homme, et on a donc une perte fonctionnelle et, à terme, probablement, une extinction locale de la plante sur la grande île de Minorque. Sur les îles de Marseille, dans les années 96, et dans le cadre de la thèse d'Éric Vidal, sur lequel on avait travaillé, on s'était intéressé à analyser les conséquences des changements de flore et de végétation du fait de l'augmentation des populations de goélands leucophées. Alors le goéland leucophée, c'est le gabian que vous connaissez tous, hein, qui tournoie autour du Vieux-Port et ailleurs. Et ce gabian, initialement, c'est une espèce très rare. Dans les années 1920, c'est une espèce où il y avait une centaine de couples tout au plus. Et petit à petit, vous le voyez avec les dénombrements qui ont été réalisés par nos collègues du CEN, du Conservatoire des espaces naturels de Provence, petit à petit, et notamment à partir des années 80-90, vous avez une explosion exponentielle des populations nicheuses du goéland leucophée, du gabian, pour atteindre jusqu'à 25 000 couples nicheurs sur les îles de Marseille, donc l'archipel de Frioul et de Riou. Et donc, ceci a eu des conséquences très importantes sur la flore et la végétation, parce que ces goélands modifient la flore du fait du piétinement, donc il y a un fort piétinement, il y a une importation de matériaux, d'ossements, de composés azotés, vous avez une possibilité d'amener des espèces végétales introduites, parce que les goélands peuvent disperser des graines, et donc vous avez une modification fonctionnelle qui est très très forte. Et ceci a été démontré, donc au niveau de cette analyse, on a eu la chance d'avoir des inventaires floristiques réalisés dans les années 1930 pour l'archipel du Frioul et dans les années 1960 pour l'archipel de Riou. Et ça, c'est les premiers botanistes de la première moitié du XXe siècle qui avaient fait des inventaires exhaustifs île par île. Et ces inventaires exhaustifs, on les a repris dans les années 95-96 et on a comparé tout simplement les inventaires anciens par rapport aux inventaires des années 95. Et on a mis en évidence qu'effectivement, ce n'était pas une surprise, on le voyait à vue d'œil, mais bon, en science, il faut quand même démontrer les choses, on a mis en évidence qu'il y avait un lien très significatif entre le changement de composition de flore entre le passé et le présent et la présence de densité de goélands. Donc vous avez un lien, une dérive, une véritable dérive floristique entre les inventaires des années 1960 pour l'archipel de Riou, hein, là c'est simplement la flore de Riou qui est représentée, et vous avez une véritable dérive de composition floristique du fait de ces densités de goélands et un pourcentage d'espèces qui sont liées à ces zones perturbées, et riches en azote, riches en phosphore et en phosphate, qu'on appelle donc des zones rudéralisées, donc des espèces rudérales qui sont liées au sentier, à des zones de dépotoirs et autres. Et là, c'est par exemple un exemple que vous avez au niveau de l'île Plane, qui fait partie des îles les plus impactées par les densités de goélands leucophées. Donc on a mis en évidence effectivement qu'il y avait des dérives qui pouvaient être très très rapides et très importantes en termes de composition et en termes de fonctionnement de ces systèmes insulaires. Et ça a conduit à des extinctions locales de certaines espèces végétales qui étaient très très rares. Et les derniers individus d'espèces qui ne tolèrent pas du tout des composés aussi riches en matière organique que ceux emmenés par les goélands, eh bien des espèces végétales et sans doute des espèces animales, mais là on n'avait pas les données suffisantes pour le dire, ont dû disparaître localement de ces îles. Donc ça peut conduire effectivement à des problèmes majeurs. Actuellement, depuis les derniers dénombrements, on a une chute de près de 50% des effectifs de goélands leucophées. Et comme on a mis en place des placettes permanentes, on arrive à suivre les dynamiques de changement potentiel de la flore et de la végétation. Pour le moment, c'est très très lent parce qu'effectivement, du fait des composés azotés qu'il y a dans les sols, mettre en évidence des changements floristiques, ça va prendre un petit peu de temps. Pour terminer sur les menaces, des menaces peut-être un peu plus ponctuelles et un peu moins fréquentes en Méditerranée, parce qu'on a essentiellement des îles qui sont des îles rocheuses, avec des altitudes relativement élevées et relativement peu d'îles sablonneuses. Donc les conséquences de la remontée du niveau marin, dont on parle assez souvent et qui ne sont pas forcément dues qu'au changement climatique, mais à d'autres changements eustatiques, des affaissements du socle océanique et autres, peuvent avoir un rôle. Ça a été mis en évidence, ces changements, dans le trait de côte à Porquerolles, par des collègues du CEREJ dans les années 98. Et ils ont mis en évidence donc un recul relativement important de 12 mètres entre 1896 et 1998. Donc un recul de 12 mètres au niveau de petites plages présentes sur la côte nord de Porquerolles. Alors, sur le plan de la conservation, ces îles de Méditerranée, elles sont importantes à prendre en compte, elles sont importantes à étudier, parce qu'elles représentent des refuges actuels de biodiversité. Or, une biodiversité unique, dans le cas des espèces végétales ou animales endémiques, ou une biodiversité qui va être très menacée sur le continent. Toutes les côtes continentales sont menacées, et donc souvent les petites îles de Méditerranée jouent le rôle d'ultime refuge de la biodiversité littorale. C'est un petit peu ce qu'on a mis en évidence dans le cadre de deux études. La première concernant la Corse, et cette première étude a fait une synthèse de la biodiversité végétale sur des îlots satellites de Corse. Une quarantaine d'îlots satellites ont pu être pris en compte dans le cadre de cette étude, sachant qu'au niveau des îles Corse, Paracorse, vous en avez entre 100 et 120. Mais cette première étude est intéressante parce qu'elle montre que les 40 îlots satellites qui ont été pris en compte abritent plus de 20% de la flore corse sur à peine simplement 0,025% de la superficie totale de l'île. Donc vous voyez la différence et la responsabilité, entre guillemets, que peuvent avoir ces petites îles paracorses dans le maintien de la biodiversité végétale insulaire. Et c'est un petit peu la même chose au niveau des îles de Provence, dans le cadre CM de Pro que l'on a encadré l'an dernier, concernant les îles de Provence, donc les 85 îles et îlots de Provence, qui représentent un territoire insulaire cumulé de moins de 4000 hectares. Pardon. Et sur ces 4000 hectares, vous avez à peu près un tiers de la flore de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc sur un territoire qui est minuscule, hein, 0,01%. Bon, ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose, évidemment, il faut les prendre toujours avec beaucoup de précautions, mais ça montre un petit peu, encore une fois, la responsabilité que peuvent représenter ces petites îles dans une stratégie régionale de la conservation, avec un ensemble d'espèces protégées et d'espèces menacées. Parmi des espèces menacées, vous avez une aurobanche, un fumaria, une autre aurobanche, une petite fougère, la fougère des Baléares. Et donc vous avez, parmi les espèces les plus rares de ces îlots de Provence, vous avez une vingtaine de plantes qui sont inscrites au livre rouge national de la flore menacée. 35% des espèces du livre rouge régional sont présentes sur ces îles, et des espèces qui ont été récemment mises en évidence comme nouvelle pour la France. Donc un patrimoine biologique qui était encore méconnu jusqu'à ce qu'on fasse depuis une dizaine d'années des prospections un peu plus poussées au niveau de ces systèmes insulaires. Et vous avez des situations intéressantes, par exemple ce chou. La région méditerranéenne est une des zones clés dans le cadre de la diversification des choux. Vous avez tout un ensemble de choux méditerranéens, et celui-là, le chou de Robert, il a une distribution présente depuis la Toscane jusqu'à la Catalogne, avec des populations qui sont présentes surtout sur calcaire, mais dans quelques cas, au niveau de l'île Longue près de Hyères, près de la presqu'île de Gien, vous avez des populations sur silice. Et là, en termes d'adaptation, en termes de ressources génétiques, on peut penser que c'est intéressant à conserver, à maintenir, puisque c'est une espèce qui est liée à des espèces cultivées. On parle d'espèces progénitrices de plantes cultivées. Et sur les îles de Méditerranée, vous avez un ensemble d'alliums, les eaux, de blettes et de choux qui ont des populations dispersées, des adaptations sans doute locales qu'il serait bon de maintenir. Donc là aussi, vous voyez l'intérêt de maintenir ces petites îles, y compris pour des espèces à distribution très restreinte, par exemple cette petite plante qui ne paie pas de mine, un petit gaillet, dont la distribution maintenant en France méditerranéenne se limite aux îles d'Hyères. Les populations présentes au niveau de la Londe et au niveau du fort de Brégançon n'ont plus été revues depuis une centaine d'années. Elles ont probablement disparu du fait de la magnitude forte des impacts anthropiques, même si le fort de Brégançon n'est pas parmi les zones les plus anthropisées, mais bon. Et elle arrive à se maintenir au niveau des îles d'Hyères. Donc des cas comme ça sont également intéressants, et c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir des territoires protégés, comme le parc national de Port-Cros, le parc national des Calanques. Au niveau des populations animales, c'est à peu près le même schéma. Cette synthèse de collègues qui avaient travaillé sur le pulfin Yale-Couan avait mis en évidence que déjà la structure spatiale globale des populations en Méditerranée, donc pour avoir une carte comme ça, c'est le fruit de plusieurs mois de travaux, de consultations, de chercheurs et autres, et mettre en évidence que les îles d'Hyères abritaient près de 10% de la population mondiale et 90% de la population française. Donc ces chiffres montrent bien la responsabilité locale et même mondiale qu'il y a de protéger ce type de milieu pour la protection de cette espèce emblématique d'oiseaux marins proche des albatros. Donc mieux connaître, préserver la biodiversité des îles de Méditerranée, pour terminer, c'est une approche qui a concerné d'abord les grandes îles, avec des programmes, notamment des programmes européens, des programmes LIFE, qui ont été développés sur les grandes îles de Corse, Sardaigne, Sicile, Crète. Là, c'est un programme européen qui vise à la préservation de ce palmier endémique de Crète et de Turquie. Vous avez deux palmiers qui sont endémiques de Méditerranée, le palmier nain, le Camerops humilis, qui est relativement bien planté sur toute la côte, et également ce palmier proche du palmier dattier, mais qui est relativement différent et qui a été mis en évidence à une date relativement récente, en 1967. Et ce palmier de Théophraste a quelques petites populations au niveau de la Crète, et donc ce programme visait à une préservation durable de l'espèce. Il y a des tentatives plus ambitieuses, et notamment celles développées par l'île de Minorque, avec le conseil insulaire de Minorque, qui a mis en évidence l'intérêt biologique de l'île, et donc qui a proposé de mettre toute l'île de Minorque en réserve de biosphère dans le réseau Homme et Biosphère de l'UNESCO, qui est un réseau intéressant parce qu'il met en parallèle les actions de préservation de la biodiversité avec un développement harmonieux et a priori durable. On parle beaucoup de durabilité des écosystèmes, mais c'est tout le fondement de la démarche MAB de l'UNESCO. Et l'île de Minorque a été mise entièrement en réserve de biosphère, et vous avez des systèmes littoraux qui ne sont quasiment plus présents au nord de la Méditerranée, malheureusement, avec des opérations également de restauration écologique des dunes. Donc là, on est quand même sur des systèmes de grandes îles. Alors, sur les plus petites îles, on a ce projet, donc, petite île de Méditerranée, dont j'ai un petit peu parlé auparavant et que je vais légèrement développer. Cette initiative PIM a été développée à partir de 2005-2006 par le Conservatoire du Littoral, la délégation internationale, et cette initiative est une initiative intéressante parce qu'elle mêle tout un ensemble d'acteurs, des gestionnaires, des propriétaires d'îles, des instituts de recherche, des scientifiques, et qui vont travailler pour une meilleure connaissance, compréhension de ces systèmes insulaires, mais également une meilleure préservation. Et donc vous allez avoir tout un ensemble de programmes qui se sont mis en place grâce à l'équipe très dynamique d'EPIM. Donc ce projet se décline en 5 programmes. Le projet Île Sentinelle, qui vise à développer des systèmes d'observatoire des changements globaux pas simplement les changements climatiques, mais les changements d'usage, des changements de pratiques, les impacts des espèces envahissantes, etc., etc. Un projet Albatros qui vise à mettre en place des protocoles de suivi des oiseaux marins, un projet plus d'observatoire des îles à des fins de communication. Le cinquième projet, c'est plus le projet d'inventaire et d'augmentation des connaissances scientifiques sur ces petites îles avec la réalisation d'ouvrages. Et vous pouvez aller sur le site internet de l'initiative PIM et vous avez tout un ensemble de documents, de rapports de mission, de synthèses sur tout un ensemble d'îles et d'îlots de Méditerranée occidentale que vous pouvez télécharger gratuitement et en toute légalité. Donc je vous invite à y aller. Et c'est vraiment un système très très intéressant. Et enfin, l'atelier des îles correspond donc à ces moments où les gestionnaires et les scientifiques échangent autour de questions précises. Et ce qui est aussi très très important, c'est qu'il y a des relations entre les scientifiques du Nord et les scientifiques du Sud de la Méditerranée qui se font en permanence avec des formations en commun. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît très très important, d'amorcer le dialogue et avoir véritablement une communauté de scientifiques, de gestionnaires qui parlent le même langage. Et ça, depuis presque une dizaine d'années. Et ça s'est mis en place, ça marche très bien. C'est complètement bénévole, sauf que effectivement, l'initiative PIM arrive à drainer des fonds, mais après les scientifiques et les gestionnaires qui travaillent dans le cadre de ces missions y vont de façon complètement bénévole. Et c'est une démarche qui concerne à la fois le domaine terrestre et le domaine marin. Il y a un collègue fameux, Joao Armelin, qui est très impliqué et qui est présent dans la salle, et qui est très impliqué au niveau du domaine marin dans le cadre de cette initiative PIM. Et donc vraiment, c'est quelque chose qui nous paraît très très important et qui fonctionne bien depuis une dizaine d'années. Et elle fonctionne tellement bien avec le directeur Fabrice Bernard, qui est quelqu'un de très très dynamique, qu'il a réussi à inscrire au niveau de la conférence environnementale qui a eu lieu en septembre 2013 au niveau gouvernemental. Il a réussi à inscrire au niveau de cette conférence gouvernementale la mise en place et la reconnaissance d'un label qui reconnaît la gestion écosystémique des petites îles, toujours pareil, de moins de 1000 hectares terrestres, à la définition petites îles au sens PIM. Et donc cette initiative de créer ce label des petites îles a été reconnue au niveau non seulement gouvernemental, mais maintenant par la Convention sur la diversité biologique, la CDB, qui dépend des Nations Unies. Et donc ça prend une dimension très très importante pour essayer d'avoir une approche cette fois-ci globale, pas simplement qu'au niveau des îles de Méditerranée, mais au niveau des îles mondiales. Donc les travaux sur ces toutes petites îles sont en plein développement, et ça c'est quelque chose qui nous paraît intéressant. Donc pour terminer, je vous invite, si vous voulez encore en savoir plus et avoir peut-être un autre regard, là je me suis focalisé sur l'aspect purement biodiversité, mais parler également des aspects plus en liaison avec l'homme, c'est également fascinant. Et cette année, donc, la Journée mondiale de la biodiversité, qui a lieu le 22 mai, est consacrée aux îles. Et donc, dans le cadre de l'initiative PIM, il va y avoir une manifestation importante, intéressante, à la Villa Méditerranée, donc à côté du MUSEM, à Marseille, et qui mettra en parallèle des gestionnaires, des habitants, des pratiquants de ces petites îles avec différents regards, et pas simplement que sur les îles de Méditerranée, même si ça sera bien sûr le focus principal de cette thématique-là. Donc vous pouvez y participer, vous pouvez vous inscrire et participer de façon plus ou moins active sur cette journée mondiale des îles le 22 mai prochain.
Merci à Frédéric Médaille. La prochaine conférence programmée par l'IRD aura pour thème l'archipel monde et sera conduite par Christian Depraeter, chargé de recherche IRD au sein de l'unité Espace Dev. Rendez-vous samedi 22 mars à 17h à l'Alcazar. Why not all?